Papy Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Au Capi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Capi.
Bien, le domaine de l'éducation est devenu un business florissant pour certaines personnes qui s'enrichissent sur le dos des enfants selon les informations reçues. Dans le but de lutter efficacement contre les antivaleurs qui minent le secteur de l'enseignement dans notre pays, l'ASBEL IMAE, Young Men Action for Education, l'action des actions des jeunes pour l'éducation, vient de lancer la cinquième édition, voilà, de la campagne École les a mon bon goûté. Entendez par là, l'école n'est pas un commerce, c'est pas un business. Alors, la feuille de route de cette campagne a été présentée dernièrement au ministre de l'EPST. Alors, quel est le but de cette campagne? Quelles sont les grandes articulations de cette feuille de route de l'ASBEL IMAE dans le cadre de la campagne École les Amombo Mote? Eh bien, nous allons découvrir tout cela avec notre invité Serge Bondedi, qui est le coordonnateur de cet ASBEL IMAE, Young Men Action for Education. Serge Bondedi, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de lancer la cinquième campagne. Oui. La cinquième édition de la campagne École Eza Mombongote. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, merci. Avant tout, je tiens à féliciter davantage la radio Okapi pour cet accompagnement. En général et plus particulièrement à vous et à l'ensemble de l'équipe du magazine Okapi Service. Et je tiens à préciser, c'est aussi un honneur pour moi de présenter cette cinquième édition
oui,
qui coïncide avec la date de mon anniversaire, le 6 mai. Donc, je suis
bon anniversaire.
Merci.
Vous êtes l'homme le plus heureux aujourd'hui.
Oui, oui, l'homme le plus heureux, vraiment. Et donc, ça montre qu'on est, on est là, présent pour l'intérêt des enfants.
Voilà.
Effectivement, vous savez, notre système éducatif est confronté à ces sérieux problèmes, celui de la marchandisation, du monnayage et de la privatisation de l'éducation. C'est-à-dire que la plupart des acteurs se sont fait éloigner de l'apostolat de l'éducation. C'est-à-dire ils ne sont presque plus animés de ces soucis de donner à l'enfant ce qui lui est le plus cher, c'est-à-dire le droit à l'éducation pour permettre son épanouissement afin que celui-ci soit utile dans la société. Donc les acteurs se concentrent beaucoup plus sur le lucre, sur l'argent, sur les intérêts, et ils ont mis en place vraiment des dispositifs pour faire de l'école un moyen pour s'enrichir plutôt que de se concentrer d'abord sur l'intérêt de l'enfant. Et cela s'est manifesté par beaucoup de faits et à plusieurs niveaux de responsabilités, et avec des conséquences extrêmement dramatiques, parce que lorsque l'école ne s'est plus formée, c'est à ce moment-là la main-d'œuvre qui est entachée, et quand la main-d'œuvre est entachée, c'est tout le circuit du cycle de production économique qui est affecté, et le pays demeurera pour longtemps dans le sous-développement. Et quand un pays demeure dans le sous-développement, c'est toute l'humanité qui est à danger dans toutes ces facettes. Alors,
à un moment, vous avez même dénoncé le règne des oligarques dans
oui,
le secteur.
Oui, effectivement, c'était pour nous l'occasion. Nous avons même repris cette thématique quand je vais en parler. Ça fait partie de thématique 6. Mais nous avons un tout petit peu changé de concept, parce que certains se voyaient beaucoup plus lésés, et en se voyant lésés, ils n'arrivaient pas à percevoir l'essence de notre démarche. Alors nous parlons cette fois-ci des moulages qu'il faut faire dans les systèmes pour permettre à ce que le système soit beaucoup plus dynamique, plus cohérent. Et pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous avons trouvé injuste que l'éducation qui est un package, et que il y a plusieurs acteurs qui doivent intervenir pour la finalité de l'action éducative, qui est un groupe de gens ou un groupe de structures ou d'institutions qui s'en approprient sans pour autant inclure les autres, ce qui fait que le pays reste longtemps dans ce que nous déplorons. Mmh. Et dans ce que nous avons dit là, en termes d'oligarchie, il y a aussi certaines options qui sont levées continuellement, qui ne favorisent pas de projets à visage humain ou à impact visible au profit de politiques éducatives. Vous avez l'exemple criant, vous pouvez visiter le siège du secrétariat général de l'EPST. La première impression que vous aurez, c'est comme si vous vous retrouvez dans des ruines, et c'est là vend très mal.
Des bureaux en ruine.
Des bureaux en ruine, parce que vous avez là.
Très mal entretenus.
Très mal entretenus et qui sont vétustes et qui ne répondent même plus aux normes, qui fait extrêmement chaud. Mais c'est un ministère qui, à l'échelle des 10 années passées, a entraîné une affaire de 1,2 milliard de dollars en termes de projets financés par le PTF. Pour nous, ça nous paraît interpellateur. Un ministère comme celui-ci, qui a beaucoup de partenaires, ne soit pas même en mesure de canaliser tous les financements qu'il a, ne fût-ce que pour renouveler son outil de travail qui est le siège de l'administration. Ça fait partie d'autant d'éléments qui nous ont poussé à interpeller les acteurs pour dire que cette manière de faire les choses constitue une sorte d'oligarchie, et il y en a autant d'éléments.
D'accord. Avant de parler de la cinquième campagne, École des Amons Bongoté, nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 081-890-63-94. Avant de parler de la cinquième édition de la campagne, revenons à la dernière édition, à la quatrième.
Oui.
Elle a porté sur quoi? Quels sont les résultats obtenus? Quels sont les défis qui restent à relever?
Oui, là.
Ils ont une sorte de bilan.
Oui, exactement. Pour la quatrième édition, nous étions beaucoup plus focalisés sur la question de la consolidation de la gratuité. Il y avait aussi d'autres questions qui reviennent toujours, notamment des pratiques non pédagogiques et qui sont contre le mœurs commis en milieu scolaire. Nous étions aussi focalisés sur la question de la lutte contre la tricherie, et là nous avons produit 2 études. Vous avez la première étude qui était spécialisée sur l'identification de faits qui sont commis avant, pendant et après l'examen d'État, de faits de tricherie et de fraude. Nous les avons identifiés, et la deuxième étude qui s'en était suivie, il fallait interroger les étudiants qui venaient de sortir du bleu blanc, donc du bac, pour leur interroger sur leur participation au recours à ces actes d'antivaleur. Et ces études étaient assez concluantes qui ont démontré que la fraude dans l'examen d'État est institutionnalisée. La fraude est connue de tous, mais personne a le courage de prendre des mesures pour mettre dehors cette fraude. Nous avons aussi interpellé le pouvoir public sur la nécessité de rendre gratuit la publication de l'examen d'État, parce que pour nous, le fait que l'État fait payer aux candidats le droit d'accès à leurs résultats consiste aussi à la marchandisation de l'éducation au niveau du gouvernement. Alors, en ce qui concerne la gratuité, nous avons beaucoup plus multiplié le plaidoyer pour que le gouvernement mette sur pied un document de politique, parce que la manière dont cette réforme est appliquée, pour nous, ça ne rassure pas la durabilité et même la fiabilité de la soutenabilité de cette réforme. Vous voyez, c'est pour cela, nous pensons que nous n'avons pas tort de le dire à son temps là, parce que maintenant là, vous voyez que le problème continue à persister, parce que les choses ne sont pas suffisamment encadrées sur un document de politique clair où il y a des indications connues et partagées de toutes les parties prenantes.
Bien, avant d'aller plus loin, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Maître Mopila de Gemena et Charles Akissimba de Lubumbashi. Maître Mopila, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à Serge. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je crois que si aujourd'hui M. Serge a pris l'initiative de créer sa cette ce dénommée École et Amons Bongoté, et je crois qu'il a fait si base d'un constat que lui a fait le constat négatif par rapport au comportement des éducateurs entre autres les enseignants, mais aussi aux élèves ou étudiants. Je ne sais pas quelle est la limite, et ça suffit, je ne connaissais pas si c'est limite au niveau des écoles primaires, maternelles ou universitaires, je ne sais pas. Mais prenons le cas si c'est généralisé. Il doit comprendre que notre éducation commence à la famille. Après la famille, il y a l'éducation pédagogique à l'école ou l'éducation formelle. Et non seulement ça aussi, on parle d'éducation diffuse, dont les élèves reçoivent cette éducation au niveau de la rue. Parlons de la famille. Je ne peux pas imaginer, M. Jody, M. Serge, qu'un parent est concerné, éduqué, de dire à son enfant que non, tu commences l'école maternelle, tu dois commencer à corrompre la dame ou bien le monsieur qui vous donne cours. Un enfant comme ça, il n'a pas cette idée-là. Pendant l'école primaire, je ne pense pas un élève peut commencer à penser que non, il faut commencer à corrompre les élèves, les enseignants, je ne pense pas. Mais aussi, quand nous quittons le côté éducation, au niveau de la famille, nous entrons maintenant à l'école, éducation formelle ou éducation et pédagogique. Vous allez vous rendre compte que non, il se pose un problème. Parce que quand il a parlé de sa quatrième édition, il a dit, il a sensibilisé l'État congolais à prendre en charge les enseignants. C'est ça le problème. Si un enseignant est bien payé, il est organisé, son bureau et la façon où il gère son école, je ne pensais, je ne pas que je peux pas imaginer que non, un tel enseignant peut commencer à demander à un élève, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Le problème qui se pose, c'est la prise en charge des enseignants. Aussi et surtout, s'il y a un problème, école Mumbongo, c'est par rapport à la RI. Un élève qui quitte à l'école, je ne pense pas qu'un enseignant dit directement que non, donne-moi l'argent. Il reçoit ça à la cité, à la RI. Il se rend compte que non, le point qu'on veut me donner, ce n'est pas le point que moi je mérite. Maintenant, que faire? Maintenant, il faut contourner, il faut aller auprès de l'enseignant pour demander le point. Mais cette question-là, pour terminer ça, il faut commencer à sensibiliser les parents, à sensibiliser la RI, aussi à rappeler les enseignants leurs devoirs vis-à-vis des enfants. Sinon, un enfant qui termine, il doit être compétent. Parce que maintenant, l'approche systématique au niveau de l'éducation, mais c'est l'approche liée à la compétence. Parce que l'enfant, on peut leur dire que non, on peut pas. Bon, en fait, du côté enseignant, beaucoup plus donner la matière théorique.
D'accord, merci Maître Mopila de Guémena. On va accueillir Charles Kissimba de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité Serge.
On vous écoute.
D'abord, je lui dis bon anniversaire, je ne sais pas moi, bon anniversaire.
Merci, merci beaucoup.
Merci, merci. Alors, M. Serge, pourquoi êtes-vous basé surtout qu'à Kinshasa seulement?
Voilà, c'est l'unique question. Pourquoi Imaï est basé seulement à Kinshasa? Y a-t-il une autre question ou c'est tout?
Oui. Est-ce que vous êtes fasciné ou bien vous avez besoin d'être accompagné? Et si tel est le cas, qu'est-ce que vous faites?
Voilà, dommage, s'il a besoin d'un accompagnement, on vous entend plus bien, la communication s'est détériorée. On va accueillir Augustin Gongo de Kikwit. Bonjour Augustin.
Bonjour, je dis Daniel Kassiama. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute, Augustin.
Oui, je dis, la thématique est très intéressante, hein, école des âmes en bon côté. C'est un phénomène que nous assistons au jour le jour. Et pour que ce phénomène puisse cesser, nous interpellons la volonté politique. La balance baisse surtout du côté politique où nous assistons aux mensonges en répétition. Et il n'y a pas longtemps, les listings sont sortis, on a promis bien des choses aux enseignants, mais à l'heure qu'il est, nous sentons qu'il n'y a presque rien qui a été réalisé comme promesse du gouvernement congolais. Comment voulez-vous que ce phénomène que nous avons tant décrié, l'école des âmes en bon côté, comment cela peut prendre fin si l'enseignant va à l'école, les intestins vides? Et il va à l'école, il n'a rien pris, il n'a même pas une bonne chemise, il ne s'est pas lavé convenablement, parce qu'il n'a pas quelque chose de bon chez lui. Et quand il va à l'école, il va faire de n'importe quoi, et il va pas se donner la bonne volonté pour rendre service à l'État congolais afin que les élèves obtiennent des connaissances adéquates. Donc voilà, pour moi c'est une préoccupation. Tout cela concerne notre pays. Et c'est pour cela que nous interpellons l'État congolais, le gouvernement actuel, qu'il mette les choses au sérieux pour que les choses aillent mieux, pour que notre enseignement remonte son niveau d'être. Merci et je vous remercie, monsieur le journaliste.
Merci, Augustin Gongo de Kikwit. Kachai, vous êtes à Kanyuka. Bonjour. Kachai, bonjour. Il n'est plus là, désolé, il va certainement nous rappeler. Serge Bondedi.
Oui, merci pour toutes ces questions et ces souhaits d'anniversaire. Bon, effectivement, Imaye n'est pas seulement à Kinshasa. Mm. Il a appelé à Lubumbashi, le secrétaire provincial de Lubumbashi, c'est Francine Zengou. Il y a un secrétaire provincial là-bas. Actuellement, nous avons... hier, j'ai signé des notifications. Donc, nous allons passer de 15 à 18, plutôt à 17... représentation au niveau national. Mm. Et nous félicitons tous ces jeunes, tous ces citoyens qui de plus en plus adhèrent à ces combats, à cette lutte. Donc ce n'est pas seulement à Kinshasa. Peut-être si à Kinshasa nous faisons beaucoup plus de bruit, c'est aussi en fonction de moyens. Vous savez, lorsque vous combattez pour la justice, il y a moins de gens qui viennent en aide. Nous avons même à maintes reprises sollicité des subventions auprès du gouvernement. Ça ne vient pas, mais si c'était des cas de deuil, on ne refuse pas de faire des deuils. Mmh. Mais si c'était des cas de deuil ou des défilés de mode, là, vous voyez le gouvernement sauter en premier. Donc, il faut comprendre un peu les niveaux d'antivaleur dans notre pays. Les limites de la campagne, dans la conception de la campagne, et quand les âmes ont bon côté, ce n'est pas seulement un focus sur les PST. C'est l'ensemble du secteur éducatif, parce que l'éducation est un package, c'est dans un système que cela se développe. Si nous
alors rapidement, cette cinquième campagne, quelles sont les articulations de cette cinquième campagne École des hommes Mbongote?
Pour cette cinquième campagne, nous avons six thématiques. Vous avez la première thématique qui est celle du suivi et consolidation de la gratuité. Vous avez la deuxième thématique qui a un focus sur la lutte contre l'enrichissement illicite, la gestion opaque et prédation, ainsi que de coulage dans des frais de scolarité. Vous avez la troisième thématique qui se consacre à la lutte contre la fraude et la tricherie aux évaluations certificatives. Donc là, vous avez l'examen d'État, le test national de fin d'études primaires, et le TENA-SOSPET qui va débuter cette année. Mais déjà, vous avez des cris d'alarme des parents sur le taux de participation. Et nous avons ajouté cette fois-ci dans cette thématique les conditions de délibération au niveau des classes montantes. Donc, pour dire un tout petit mot, une petite chose là-dedans, vous avez des parents, en tout cas des parents, qui n'aiment plus que leurs enfants redoublent des classes. Mmh. Et vous avez également des chefs d'établissement, surtout dans les établissements privés agréés, qui ont horreur de voir les enfants échouer, parce que si vous faites échouer un enfant, pour lui, le parent va faire quitter l'enfant et c'est...
Et l'envoyer dans une autre
école. Dans une autre école, et c'est au détriment des intérêts mercantilistes de certains chefs d'établissement qui sont beaucoup plus commerçants que pédagogiques. Nous avons la quatrième thématique qui est celle de la lutte contre la privatisation, la vente et l'occupation des terrains d'école et des espaces scolaires. Vous allez constater, en tout cas, depuis qu'on a lancé la gratuité, la plupart d'écoles publiques conventionnées ont procédé à ce qu'on appelle à des morcellements des espaces scolaires. Mmh. Vous allez, si vous êtes à l'IPG, par exemple, vous allez trouver une école privée qu'on a créé à l'intérieur. On a morcelé.
Si vous êtes pour ériger des magasins.
Pour ériger les écoles même privées à l'intérieur.
Okay.
Et vous avez des morcellements qu'on fait pour ériger des magasins. Vous avez des morcellements ou soit des privatisations des espaces scolaires pour en faire de besoins privés de particuliers alors que l'école est un bien communautaire. Ces espaces qui devraient peut-être servir au développement des activités scolaires sont transformés pour des besoins de lits creux de particuliers. Et donc ça c'est la quatrième thématique. La cinquième, c'est la lutte contre les pratiques non pédagogiques, les pratiques du monnayage, des sanctions disciplinaires et des travaux scolaires. Et là, c'est sera beaucoup plus consacré à des activités de monitoring parce que depuis que nous avons lancé la première édition en 2017, nous avons trouvé et nous avons aussi constaté une nette évolution en termes de prise des mesures par le gouvernement. Il y a un grand nombre de mesures qui, en tout cas, qui sont phares au nombre de 6 qui ont été prises. Vous avez l'institution de la gratuité de période d'inscription dans les écoles, mais comment est-ce que cela est appliqué? Vous avez, par exemple, la vente obligatoire des imprimés qui est interdite, mais ça continue à s'opérer. Donc il y a 6 mesures phares qui ont été prises par le gouvernement. Il y a d'autres qu'on a trouvées, et il y a le zinc qu'on a trouvé, les autres on a constaté depuis qu'on a lancé la campagne, et nous allons suivre le niveau d'application. Nous avons enfin la sixième thématique, c'est qu'on appelait jadis les oligarques, mais cette fois-ci nous avons changé de concept pour parler appui au remodelage structurel et fonctionnel pour un système éducatif intégré, inclusif et pasteurisé. Donc atténuer l'emprise et l'impact de l'institutionnalisation des antivaleurs au niveau structurel. Donc, quand vous avez, par exemple, le choix de ciblage des mêmes provinces lorsqu'il s'agit des projets financés par le PTF à l'échelle des 10 ans, vous avez les Nord Kivu qui reviennent, les Sud Kivu, le Congo central, mais on voit pas assez de projets dans les Sankuru. On voit pas assez de projets, par exemple, dans tel ou tel coin.
Pourquoi toujours les mêmes projets?
Pourquoi toujours les mêmes provinces?
Parce qu'il y a des intérêts derrière.
Il y a des intérêts, et vous savez, souvent quand les gens veulent, non pas animés par le bonnes intentions, il faut aller tromper l'œil là où il y a quelque chose. Mais là où il y a rien, les gens vont découvrir que vous n'avez rien
fait.
Voilà pourquoi ils se concentrent sur les mêmes problèmes. Exactement.
Juste pour saupoudrer.
Quand vous avez des projets comme PQPSU avec 200 millions de dollars pour relever l'enseignement technique en République démocratique du Congo, mais vous pouvez faire un tour juste ici à Litigombe, une école vraiment des renommées qui manque même des baguettes à poste à soudir. C'est quand même interpellateur.
Bien, on va accueillir trois auditeurs. Katia y est en ligne, Madame Claudia Koloizi et Rodrigue Boija de Gombe. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité, monsieur Serge.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre la marchandisation de l'éducation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. C'est bien comme ils font la campagne, mais cette campagne surtout se limite à certaines provinces. Elle n'arrive pas dans d'autres. On ne sait pas comprendre pourquoi. Même si le plaidoyer est mené, c'est vrai que le pouvoir fait comprendre directement sur l'étendue du territoire, mais les partenaires de l'État, les enseignants, les responsables de l'école, est-ce que dans toutes les provinces, ils sont sensibilisés pour qu'ils puissent prioriser l'idée de la gratuité, de la consolidation de cette gratuité-là? C'est ça un problème. Monsieur Serge, nous vous demandons d'élargir le champ d'application de cette campagne-là sur toute l'étendue du territoire national. Je prends le cas ici à Kanyuka des écoles non mécanisées de l'État. Depuis que le gouvernement avait pris l'initiative d'institutionnaliser la gratuité sur toute l'étendue du territoire national de l'enseignement, il y a certaines écoles qui ne sont pas mécanisées jusqu'ici. Et ce sont ces écoles-là qui continuent à déranger les parents et les enfants par rapport aux frais, les différents frais qui sont d'ailleurs multipliés au fur et à mesure, et en termes d'ailleurs de besoins qu'ils ont. Je prends l'exemple de l'école qui est à Kanyuka, où nous sommes. Monsieur Jody, vous pouvez voir un enfant qui vient le matin, il vous dit, on nous a dit d'amener 250 francs comme travaux manuels. Ah, 250 francs comme travaux manuels, c'est-à-dire quoi? Alors, quand vous allez à l'école, le maître ne sait pas expliquer cela. Il dit non, c'est la direction qui a demandé. Il faudrait toujours remettre à l'enfant, c'est trimestriellement, en dehors des frais que vous payez comme frais scolaires. Vous voyez que quand les gens n'ont pas déjà la culture de comprendre que tu sais que Dieu veut que tout le monde, tout enfant de Congolais puisse étudier gratuitement, et que maintenant, en coulisses, il y a certains frais institués, il y a certaines pratiques monnayées par les responsables des écoles, cela ne va pas encourager les pouvoirs à faire de la gratuité une effectivité.
Merci, Kachai.
Le gouvernement.
Merci.
Ils ont manifesté la volonté de nous aider.
Oui.
Mais aidons-les aussi à travers la sensibilisation dans les différentes écoles.
Kachai, les 250 francs des travaux manuels, c'est pour faire quoi exactement?
Oui, mais nous sommes allés à l'école demander aux responsables pour qu'ils nous expliquent. Ils n'avaient rien dit. Et cela se donne trimestriellement. Et on ne sait pas comprendre les travaux manuels là. De deux, on ne proclame pas les enfants sur base de bulletins scolaires, on leur remet des jetons. Et pour avoir ces jetons-là, il faut donner 500 francs. Là, c'est à l'école primaire. Si vous n'avez pas 500 francs, vous ne prenez pas les jetons. Vous comprenez un peu tout ça, monsieur Jeudi. Il y a des frais techniques qui leur demandent. Les frais techniques, là, c'est l'école primaire. À l'école primaire, il y a quelles techniques que les enfants peuvent exercer. Mais quand vous voyez les écoles continuer à demander ça, c'est un problème. Donc, le plaidoyer doit être mené à l'État pour qu'il puisse continuer le processus de mécanisation des écoles non mécanisées jusqu'ici. Deuxièmement, sensibiliser les responsables des écoles dans tous les milieux, même les milieux reculés comme Kanyou, à partir duquel je vous appelle, afin que les gens puissent comprendre.
Merci Kachai. D'accord, on a compris. Merci Kachai. On va donner la parole à Madame Claudia de Colosi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Daniel. Bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs. Oui, en fait, merci pour le choix du thème. Je pense que ce genre de thème devait faire vraiment la une des débats sur tous les médias. Le développement du pays en dépend. Mmh. Je commence par poser la question à l'invité. Pourquoi ils sont établis seulement à Kinshasa? Ils devraient élargir leurs ONG dans toutes les provinces, travailler même avec la société civile. Parce que c'est vraiment important de miser sur l'éducation des enfants. Si les dysfonctionnements et le chaos que connaît notre système éducatif, que tout le monde doit vraiment s'intégrer. Tout le monde. En fait, même le gouvernement doit prendre au sérieux l'éducation des enfants. Parce que les moyens qui commencent à l'école primaire, ça remonte au niveau secondaire, mais même jusqu'à l'université. Et cela, comme conséquence, on voit un élève avoir un diplôme de classe sans savoir lire ni écrire. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'il a-t-il fallu qu'on l'élève de classe tout en ayant des échecs? Même au niveau des universités, il y a certaines universitaires qu'on pourrait même qualifier de délinquants. Une personne qui sort de l'université tout en étant un produit expiré ou un délinquant. Nous avons deux formes de délinquants dans notre pays. Il y a des délinquants intellectuels et des délinquants illettrés. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir traité de ce thème. Mmh. Et je demande aussi à l'invité d'élargir un peu.
Voilà, d'élargir ses activités. Dans toutes les provinces. D'accord, merci Madame Claudia. Rodrigue, vous êtes merci. À Goma, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité aussi.
Quelle est votre préoccupation, Rodrigue?
Oui, moi, je passerai que c'est mieux que l'éducation en RDC soit réformée. Parce que quand on retrouve un étudiant ou un élève, il étudie juste pour avoir les papiers. Et la majorité de ceux qui finissent les études, on retrouve, ils ne sont plus dans les filières où ils ont étudié. C'est mieux que quand on est en train d'étudier, on puisse vraiment se focaliser sur ce qu'on est en train qu'on va faire dans la vie. Quand on est en train juste de chercher les papiers par rapport à la formation, normalement, qu'on devait chercher, c'est ça, c'est qui fait qu'il y a la monétisation dans l'éducation.
Bien, merci beaucoup. Rodrigue Bouya, voilà, depuis Goma. On va accueillir Jean-Pichi Pamba de Kananga. Bonjour.
Lolo, bonjour, monsieur. Jeudi, c'est Jean-Pichi Basse-Kwamba. Je suis venu depuis la ville de Kananga.
Jean-Pichi Basse-Kwamba, ok, on vous écoute.
Oui, oui. Vous m'écoutez?
Oui, allez-y. Allô? Désolé, il n'est plus là. Serge Bondedi.
Oui, merci beaucoup, Kachai.
Kachai dit, pourquoi vous êtes seulement à Kinshasa? Les auditeurs veulent que vous puissiez élargir la campagne un peu partout à travers
le pays. Oui, nous ne sommes pas seulement à Kinshasa. La difficulté est que nous sommes une association, donc une organisation privée, avec des moyens vraiment très limités, c'est-à-dire... de cotisations de membres.
Oui.
Et les activités de la campagne n'ont pas des subventions malheureusement, mais cela n'empêche, nous faisons par rapport à ce que nous avons
par rapport aux moyens des bords.
Aux moyens des bords, je crois que je venais de dire ici, nous avons à la mesure des possibles les secrétaires provinciaux dans la majorité des provinces que compte le pays. Et je crois pour dire même à Madame Claudia, il y a un SP là-bas qui s'appelle Cédric Mambonné.
Qui est à Colosi,
qui même était reçu par les responsables éducatifs là-bas. Et il y a même à Colosi une question que nous suivons de près sur l'université pédagogique de Moussoumba qui est totalement abandonnée pour des raisons politiques. Et les étudiants sur place là-bas sont en souffrance. Donc, il peut nous contacter. Après l'émission, on va le mettre en contact avec les responsables provinciaux des IMEI.
Alors, un numéro, peut-être qu'il y a des gens qui veulent soutenir à cette campagne. Oui, ils peuvent nous joindre
par 081-86-130-51. Et en tout cas, ça va beaucoup nous aider. On va leur donner le compte bancaire des IMAIE. Parce que nous respectons normalement des procédures. Ils peuvent faire des donations à travers...
081-86-130-51. D'accord.
Donc, vraiment, nous sommes à la recherche des moyens, parce que même si vous demandez au gouvernement, lui donne lorsqu'il s'agit des deuils, des défilés, des modes, des concerts, des wenge et consorts. C'est ce que nous avons comme l'impression. Et alors...
Katcha a déploré, il a parlé même d'une école où on demande 250 francs aux élèves pour les travaux manuels.
Exactement.
Ce n'est pas justifié.
Et c'est fréquent. Voilà pourquoi nous, dans cette question est prise en charge par cinquième thématique. Ce sont des pratiques non pédagogiques en termes de monnayage des travaux et pratiques scolaire. Et c'est fréquent.
On demande aux enfants les frais des bibliothèques, mais il n'y a pas de livres dans les écoles.
Il n'y a pas de livres dans les écoles. Vous savez, il y a même la question de frais de l'enseignement à distance. Vous savez, nous étions très impliqués dans ces plaidoyers et le gouvernement a fixé le frais à 5000 francs. Mais je peux vous dire à Kinshasa, qui compte plus de 1000 écoles secondaires, et les enfants ont payé ces frais, mais les écoles qu'on peut tracer, sans pour autant savoir même les élèves qui ont payé, sont moins de 100. Les écoles, moins de 100.
Moins de 100.
Alors que l'argent de près de 900 écoles et quelques se retrouve entre les mains de particuliers, et c'est l'occasion pour eux de se construire des maisons, de se taper des troisième, quatrième, cinquième femmes. Voilà un peu l'image de la prédation, des coulages qui gangrènent le secteur éducatif. C'est autant.
Et ils le font en toute impunité.
En toute impunité. Voilà pourquoi c'est révoltant. C'est révoltant. Donc, les parents payent, mais il y a des gens qui, pour eux, c'est une occasion pour eux de s'en servir et de devenir riches.
Et on va accueillir Boumedien de Lubumbashi avant de répondre aux autres préoccupations. Boumedien, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui à notre invité.
On vous
écoute. Moi, je commence par encourager les Congolais qui ont de bonnes initiatives et qui ont le souci pour que le Congo change. Mais vous nous savez bien que le système éducatif a été détruit depuis qu'il y a l'avènement des écoles privées. On a détruit les écoles publiques pour en créer les écoles privées qui sont devenues des business commerciales. Je pense bien que toutes les mesures prises par le ministère de l'enseignement sont bonnes. Mais ce n'est pas le ministère seul qui doit faire tout le travail. Les services de renseignement, de sécurité, de la police sont là pour l'applicabilité de toutes ces mesures-là. Mais ces services-là, et surtout des renseignements, ils sont là, c'est leur moment, c'est leur période d'avoir beaucoup d'argent avec les promoteurs des écoles privées. Mais c'est jeudi, j'avais dit dernièrement au conseiller de chef de l'État qui était sur le plateau, je l'avais donné une information. Et maintenant, j'aimerais assez que, si c'est possible, vous allez voir que pendant cette période des examens d'État, les promoteurs vont commencer à se déplacer de toutes les provinces vers Kinshasa pour les opérations des examens d'État. Les corrompre les gens qui sont taquines pour corriger les examens d'État. Que font les services de renseignement, des DGM, puisque les services de renseignement connaissent tous les gens, les promoteurs de toutes ces écoles-là. Quand ils se déplacent après les examens d'État, c'est pour aller faire quoi? L'argent qu'on demande, on continue toujours à demander. Moi, je vous donne encore une information pour notre invité qui est sur le... 30 000 pour les opérations des examens d'État. Je l'avais dit au conseiller du chef de l'État. 15 000 pour je ne sais pas quoi, pour les photos. Tout ça, c'est découragé. Ce sont les gens qui sont là pour que les Congolais ne puissent pas changer. Mais ceux-là qui devraient nous aider, nous, la population, sont complices. C'est pourquoi je demande à ce que qu'on puisse permettre tous ces gens-là, la police, l'ANR, les magistrats, les militaires, qu'on puisse les permettre d'une province à une autre, les choses vont changer. Qu'on crée même un service de doublement dans le service de renseignement pour voir que l'ANR a fait ça, où il est dénoncé. C'est ça ma petite contribution aujourd'hui et j'encourage notre invité.
Merci à Boumedian de Lumbashi. Émile, vous êtes à Kikwit, bonjour. Émile de Kikwit, bonjour. Bien, on va relancer Émile tout à l'heure. Serge Bondedi, à vous la parole.
Oui, je crois que Katia a parlé de quelque chose qui est d'importance capitale sur la mécanisation. Vous savez, c'est vrai, hein. Vous savez, lorsqu'on préparait cette campagne, parmi des éléments qui contribuent aussi à la marchandisation, au monnayage de l'enseignement et à la privatisation dans notre pays, c'est aussi les rôles que joue l'État. Vous savez, depuis un temps, l'État congolais n'investit plus dans le secteur de l'éducation et cela a occasionné beaucoup d'effets dont c'est nous décrions. Il y a la question des mécanisations des écoles, mais c'est aussi ici l'occasion d'interpeller. Vous voyez, cette question de mécanisation, cette question des NU doit faire l'objet de suivis minutieux. J'ai aussi entendu parler des questions sur le traitement des enseignants. Mmh. Vous savez, Humaye ne se penche pas beaucoup, très de manière approfondie sur la question du traitement des enseignants parce que ils sont des syndicalistes. Vous voyez, on peut pas, pour être efficace, on peut pas toucher à tout et faire tout à tous les domaines.
C'est là que vous avez identifié les domaines d'activité.
Donc nous, s'il s'agit des questions des enseignants, nous participons lorsque le gouvernement nous invite à titre d'observateur pour faire des propositions et à la limite on s'arrête là. Ils ont des syndicalistes. Je crois que c'est qu'on peut demander aux enseignants, surtout et moi personnellement, le message que je lance très souvent aux enseignants, c'est d'être beaucoup plus éveillés. C'est d'être beaucoup plus éveillés. Il faut avoir un rôle vif à jouer. Il faut pas être trop plaintif et attentiste. Et vous savez, pour obtenir un certain nombre de droits, il faut contraindre le gouvernement par des mécanismes de pression. Les droits ne s'offrent pas sur un plateau en or. Donc voilà pourquoi à la limite du possible, nous émettons des avis, nous formulons des propositions, mais être actif sur les questions de la vie des enseignants, c'est beaucoup plus réservé aux enseignants, aux syndicalistes. Nous limitons sur vraiment la
donc le rôle d'Imaé, c'est de faire des enquêtes et de dénoncer les antivaleurs.
Exactement, c'est sur cette campagne et la campagne a 5 axes. Vous avez les enquêtes études de terrain, telles que sur la question de la vente, occupation et privatisation des espaces scolaires et terrains d'école. Maintenant là, nous sommes dans une phase de récolte des données à travers les entrevues qui ciblent environ 40 personnes, donc qui sont constituées, vous avez des hauts fonctionnaires du pays, de l'administration, certains experts comme des personnes ressources, et nous les interrogeons pour obtenir des éléments. Vous avez l'autre axe qui est la sensibilisation. Je crois qu'ils vont voir dans le prochain jour nos SP là où nous sommes présents. Nous sommes dans une phase où on essaie.
SP veut dire quoi, hein?
Secrétaire provincial. Okay. Nous sommes en train de déployer quelque peu de matériel, de visibilité pour eux. À un moment, ils seront actifs. Ils vont faire la récolte des données et puis la sensibilisation sur la question de la fraude et la tricherie à l'examen d'État.
Ça veut dire que si la population, les gens ont des informations compromettantes, ils peuvent vous les envoyer.
Exactement, c'est ce que nous faisons toujours. Nous étions, par exemple, récemment, moi-même j'étais à Kisantu à l'occasion du lancement de la campagne. Nous avons passé nuit, nous avons fait 2 jours pour aller au contact personnalisé avec le ménage, les citoyens, les communautés, pour recevoir de le plainte directement de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est ça le travail d'Imaye. Nous ne sommes pas, ce qui fait que si vous venez me trouver au bureau, vous me trouverez difficilement, parce qu'à tout moment, nous sommes
sur terrain.
Oui. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la dénonciation. Je peux vous citer un cas de l'école Moussengo, Cardinal Moussengo Alimete, où un parent qui est venu nous voir pour nous dire, à la rentrée des classes après les vacances de Pâques, on leur a exigé l'achat de nouvelles uniformes. En plein milieu de l'année, ce sont des cas tel que celui-là que nous recevons.
On exige aux parents d'acheter encore
des nouvelles uniformes parce que
qui sont cousus à l'école.
À l'école parce qu'ils estiment que les uniformes vendus au début de l'année sont presque selon le témoignage du parent, il faut que ces uniformes soient déclassés. Nous avons reçu des plaintes telles que à l'ISAM où on oblige aux élèves d'acheter les syllabus. C'est révoltant. Donc la vente des imprimés dans les écoles où des enseignants ne dispensent plus cours au tableau, mais ils préfèrent vendre aux enfants des imprimés. Ça, nous disons non et non. Donc à travers cette opération de dénonciation que nous appelons Nazofunda, nous offrons la possibilité aux citoyens de dire tout haut ce qu'ils ont constaté et c'est pour nous une manière de leur faire participer à l'éveil citoyen. Nous avons aussi l'accompagnement. Récemment, le ministre Tony Mwaba a initié ce qu'on appelle le visite d'itinérance et d'orientation à travers les provinces éducationnelles. Et il m'a associé comme acteur de la société civile. Et je vous dis, c'était waouh parce que à cette occasion, nous avons administré des soins appropriés aux responsables provinciaux qui sont mêlés dans la fraude, dans les antivaleurs. C'est pour nous aussi l'occasion de dire à la personne de Lubumbashi.
À Boumedieng, qui dit que la marchandisation, c'est plus dans les écoles privées.
Exactement.
Après les examens d'État. Ouais,
À Lubumbashi, récemment, à notre secrétaire provincial d'ailleurs, avait fait une déclaration qui était relayée dans les réseaux sociaux où on a obligé aux enfants des écoles primaires comme secondaires de payer le frais des forts carême à 3000 francs, 4000 francs. Je suis chrétien, je suis pasteur aussi, mais on peut toutefois inviter les enfants aux œuvres caritatives, à la fraternité, c'est tout à fait normal. Mais lorsque on institutionnalise cet effort de frais carême, c'est là où ça devient un peu inquiétant parce que il n'y a pas de mécanisme de traçabilité, il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Donc les gens peuvent s'en servir pour utiliser l'école comme un moyen d'enrichissement. Mmh. C'est à ce sujet-là que Imaye s'est opposé. Certaines personnes nous ont qualifiés d'antéchrist. Non. On ne peut pas admettre que les gens obligent aux enfants de payer 4000 francs des efforts carême, et surtout qu'on ne voit pas la destination de cet argent. Lorsqu'on donne aux démunis les produits de ces cotisations, personne ne voit. Donc nous étions lancés sur cette question-là.
On va accueillir des auditeurs, Émile de Kikwit et Safari depuis Gabarrière. Émile, bonjour. Émile, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, papa.
On vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? La communication n'est pas bonne, on vous entend pas très bien. Désolé, on va prendre Safari depuis Gabarrière. Bonjour.
Bonjour à monsieur le député.
On vous écoute.
D'accord, je crois que j'ai une petite question pour l'invité. Monsieur l'invité, est-ce que lorsqu'il y a un chef d'établissement, qu'il soit un établissement public, alors lorsque ce genre de chef demande un frais privé aussi, donc non reconnu par l'État, il demande ce genre de frais à ses élèves, est-ce que à ce temps-là, les parents ou autres personnes auront droit d'aller acquiser ces chefs d'établissement, alors que l'école de lui appartient. Donc, c'est ça une petite question pour vous. Sinon, bonne journée.
Merci. Bien, Serge Bondedi.
Oui, merci. De frais illégaux, illicites sont strictement interdites. La perception de ces frais est strictement interdite et marquée en lettres d'or dans la note circulaire portant frais de scolarité. Donc, quand un chef d'établissement se comporte ainsi, le parent doit aller voir le sous-provète de la juridiction ou du provète pour leur faire part de cette information. Et ça sera aussi important de nous prévenir parce que il y a souvent lorsque vous avez, parce que dans la plupart des provinces éducationnelles, vous avez des provinces qui sont tellement mafieux et jouent des connivences avec des chefs d'établissement. C'est-à-dire, ils instruisent des chefs d'établissement de faire de fausses déclarations de chiffres parce que entre eux, ils se retrouvent, vous voyez. Donc, et lorsqu'un parent vient porter une pareille information, il s'est dit non, ce monsieur veut mettre à nu notre réseau et c'est l'enfant qui va en subir. Donc c'est aussi important de nous prévenir pour que nous mettions sur place un dispositif d'éveil que ce soit à l'égard du préfet, tout comme à l'égard du prophète, pour que si quelqu'un s'hasarderait, comme le prophète de Oukatanga 1 a essayé de menacer tous ceux qui dénonçaient la perception de ses frais. Personnellement, j'en ai porté à la connaissance du ministre et qui lui a interpellé séance tenante. Donc il faut de pareils cas de nous tenir informés pour mettre un dispositif pour la protection des enfants. Donc j'étais en train de dire, à travers ces missions d'itinérance, on a été en Mbandaka, à Goma, à Kinshasa, dans le Congo central. En tout cas, nous, comme acteurs de la société civile, c'était pour nous la tribune offerte par le ministère pour que nous puissions dire tout haut, faire remonter à la surface ce que les autres disent tout bas. Et c'était l'occasion pour nous d'interpeller les responsables provinciaux à participer dans la lutte contre les antivaleurs, donc les actes de marchandisation, de privatisation et du monnayage de l'enseignement, ou comme dans l'éducation.
Bien, donc on retient que la cinquième édition de la campagne École Ezamubongote a 6 articulations.
Exactement, nous avons 6 thématiques qui se déclinent en termes de 5 axes opérationnels. Donc les études et enquêtes de terrain, la sensibilisation, le monitoring, la dénonciation et l'accompagnement, parce que comme citoyens, nous sentons que nous avons aussi un rôle à jouer. Donc là où nous faisons des formulations de propositions au gouvernement pour que des mesures soient prises, et lorsque ces mesures sont prises, ça nous permet de s'asseoir ou de se référer sur ces mesures pour permettre de sensibiliser les populations afin de dénoncer suffisamment.
Bien, voilà, donc vous êtes là pour dénoncer les antivaleurs. Alors, les auditeurs, comment est-ce qu'ils peuvent aussi vous accompagner dans cette campagne des luttes contre les antivaleurs dans le secteur de l'éducation?
Comment ils peuvent nous accompagner? Vous avez d'abord, c'est aussi important de participer comme activistes de l'éducation. Là, ils peuvent devenir membres de l'IMAIE si ils veulent. Et pour devenir membres, ils peuvent nous joindre par WhatsApp. On va leur envoyer la fiche ou les dossiers d'adhésion pour adhérer.
C'est quoi le numéro?
Pour l'adhésion, le numéro, c'est 085 pour l'adhésion. 050 90 45. Ça, c'est pour l'adhésion. Mais en ce qui concerne les soutiens, ils peuvent soutenir ou d'autres aspects. C'est les numéros Vodacom que nous avons donnés. 081 86 130 51. Nous avons des points focaux dans un certain nombre de provinces, mais il y a des provinces où nous manquons encore de représentants, oui. Notamment dans les Bawélé, dans les Owélé. Vous avez dans l'Omami, jusque là il y en a pas encore, et vous avez à Mungala, il y a pas encore de représentants. Sud comme Nord Bangui, il y en a pas encore, et à Kwilu aussi il y en a pas encore. Donc voilà, ils peuvent participer, ils peuvent devenir membres, ils peuvent nous soutenir aussi.
Kachayu aussi, Kanyuka peut aussi.
Ils peuvent aussi et dans les territoires, ils peuvent aussi être des points focaux des territoires, oui. Et surtout participer dans les activités de dénonciation, dans des activités de sensibilisation, à partager nos messages sur les réseaux sociaux pour permettre à chaque Congolais ou à chaque parent ou élève d'être informé de ce qui se passe.
Alors la cinquième édition de la campagne École Ezamubongote va durer combien de temps?
En tout cas, on a changé de stratégie parce que on avait constaté lorsqu'on lançait au début de l'année et on bouclait au même moment de la clôture de l'année scolaire, il y a une phase qu'on n'arrivait pas à couvrir, et cette phase-là, c'est là où beaucoup de choses se font. C'est pendant les vacances où les enfants, les nouveaux enfants se font inscrire. Et il y a beaucoup de pratiques non pédagogiques. Donc cette fois-ci, vu qu'on vient de lancer au mois d'avril, nous allons aller jusqu'au début de l'année scolaire prochaine.
Okay.
Donc nous allons vraiment élargir un tout petit peu le délai. Au lieu de rester dans le 9 mois comme on fait, nous allons atteindre 12 mois pour couvrir toutes les périodes sensibles où le mafieux profite pour
Pour se faire de l'argent.
Pour se faire de l'argent derrière les enfants et sans pour autant même se soucier de ses enfants. Donc on peut même faire de l'argent sur les enfants et se soucier des enfants. Voilà. Mais vous avez des voleurs méchants, des mafieux méchants qui se font de l'argent sans se soucier même de ces enfants-là.
Oui. Bien, merci Serge Bondedi. Je rappelle que vous êtes président de IMAE, Young Men Action for Education. Et vous venez de lancer vous étiez notre invité aujourd'hui pour parler du lancement de la 5e édition de la campagne. École des hommes en bonne qui veut dire l'école n'est pas un commerce, ce n'est pas une business. Merci Serge et à la prochaine.
Merci beaucoup.